de Noël. Ça vous va? C'est bien. Et puis, si vous ne voulez pas entendre, vous mettez vos mains sur les oreilles. Mais je vais vous parler de Noël, parce que c'est intéressant de voir ce qu'est Noël. Alors, je m'étais posé la question, tout d'abord, pourquoi en Italie on dit Natale? Il y a l'idée de la naissance. Pourquoi chez les Grecs on dit Natalis? Il y a une idée de naissance, il y a encore des magasins qui s'appellent comme ça, je crois, pour acheter des poussettes et les choses de bébé. Et au fond, je crois qu'en Espagne aussi, ça a un rapport à la nativité. Mais nous, on n'a pas cela, on a Noël. Si on va aux États-Unis, en Angleterre, c'est Christmas, le culte pour Christ. Et au fond, on a, chez les Allemands, par exemple, c'est Weihnachten, c'est la nuit sacrée. Chez nous, on a Noël. Alors, ça parle moins, je trouve, non? Ça parle moins. Alors, d'où nous vient ce mot? Alors, c'était un petit peu ma question, ça fera mon introduction pour la suite, ensuite, bien sûr, par rapport à un texte de la Bible et plusieurs textes de la Bible. Les Gaulois, eux, avaient situé ce temps et ils l'avaient appelé Noyo-El, nouveau soleil. Intéressant, hein? Noyo-El, c'était nouveau soleil. Vous savez pourquoi? Parce que la période que nous sommes, c'est la période où il va y avoir la journée la plus courte et le temps le plus sombre jusqu'au moment où ça va remonter. Le 21 décembre, à peu près, hein, ça dépend où on habite sur la Terre, mais environ. Donc, à ce moment-là, en fait, on arrive dans la nuit la plus noire et ensuite, le jour commence à grandir pour arriver jusqu'au mois de juin, son culminant. Donc, au fond, eh bien, c'est la nuit, là, ça va être le jour le plus court, la nuit la plus noire, dans ce sens où, en fait, eh bien, c'est quand même la lumière qui triomphe du noir. Intéressant. Et puis, même la Bible nous dit que Jésus est le soleil de justice. Et que dans ses rayons, il y a la guérison. C'est intéressant que des anciens, même eux, ils donnaient des noms à des choses, mais au fond, il y a des significations intéressantes. Les anglophones, et j'aime bien cette définition, je la prends pour moi, je la trouve bien par rapport à Noël. Les anglophones ont ce mot, même s'ils disent Christmas, mais ils ont ces deux mots que quand on met bout à bout, ça fait Noël. No, vous savez ce que veut dire no? Ça veut dire non. No et hell, H-E-2-L. C'est quoi? L'enfer. Alors, moi, ça me parle maintenant, Noël. Non? Moi, ça me parle. Noël, pas l'enfer. Vous comprenez alors le sens que ça peut donner au mot Noël quand on prend cette idée anglo-saxonne qui serait Noël, non, pas l'enfer. Eh bien non, parce que Jésus, il n'a pas envie qu'on aille en enfer. Il est venu pour qu'on aille au ciel. Il dit même dans l'Évangile qu'il a préparé une demeure pour chacun d'entre nous. Il appelle donc tout le monde, mais il force personne. L'enfer est préparé pour le diable et ses anges, mais pour nous, il prépare le paradis. Noël ! Mais il faut rentrer dans son programme. C'est intéressant, petite introduction, non ? Enfin, pour moi, ça me paraît intéressant. Emmanuel ! Alors, on pense aussi que ça pouvait venir de là. Emmanuel, et le Noël serait resté. Ça veut dire qu'il y a la notion, alors à ce moment-là, de nativité, Emmanuel, nativité, et E-L, Dieu, Dieu qui est né. On pense aussi que ça peut être ça. Mais moi, j'aime bien ma définition, Noël. Mais c'est tout cela que vous trouverez, au fond, qui est intéressant à chercher. Mais dans tous les cas, c'est l'incarnation de Dieu, naissance du Dieu du ciel, du soleil de justice. Souvenez-vous, quand Dieu a parlé la première fois, il a dit que la lumière soit. C'est seulement après qu'il fera le soleil, les astres et tout le reste. Quand il dit que la lumière soit, ce n'est pas l'idée même, eh bien, qu'il crée le soleil, non, ça vient après. il a déjà placé à l'origine cette parole qui va devenir chair. Car il est la parole faite chair, il existe de toute éternité. Il est lumière qui vient triompher des ténèbres. Dès le départ, il est présent parce qu'il a toujours été. La parole était Dieu, la parole était avec Dieu, la parole était Dieu. Et elle est venue habiter parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Elle a été faite chair, cette parole. C'est merveilleux, n'est-ce pas? Chair humaine. Et pour être chair, il fallait passer par une femme. Il fallait qu'il y ait une naissance. Et c'est pour ça qu'on a situé, au fond, par rapport à nous, à cette date, parce qu'il en fallait bien une. Mais je suis content que l'on puisse se souvenir dans le monde entier que le Sauveur est venu pour qu'on n'aille pas en enfer, pour qu'on aille au ciel. Parce que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné Jésus, son Fils, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, ne soit pas condamné à l'enfer, mais puisse être sauvé pour le ciel. Je trouve ça tellement extraordinaire. C'est la parole de Dieu qui nous dit tout cela. Hein? Amen. Eh oui. Et la venue de ce grand Sauveur était annoncée par les prophètes dans l'Ancien Testament. L'Ancien Testament, et d'ailleurs un texte a été cité par ma sœur qui dirigeait la chorale en disant « Ah, c'est un texte qu'on ne dit pas souvent ». Alors moi ça me gêne parce que c'est... Je disais au pasteur, elle va me prendre ma prédication. Eh oui, dans Ésaïe 7,14... Et dans 9,5, il est dit tout d'abord dans 7,14, « Voici la jeune fille vierge deviendra enceinte. » Connaissez ? « Elle enfantera un fils, donc il sera mâle. » La jeune fille vierge, non pas la vierge. La jeune fille vierge que Joseph choisira. Parce qu'on est dans la descendance de David. Et c'est Joseph qui est de la descendance de David. Et en fait... Elle va lui donner le nom d'Emmanuel. Tu l'appelleras Jésus, Sauveur, Emmanuel. Même quand l'ange va venir se révéler à elle et lui révéler les choses, elle va être surprise, elle va dire, mais comment c'est possible, je n'ai pas connu d'homme. Voyez, elle n'a pas la science infuse. Hein? La jeune fille vierge, elle n'a pas la science infuse. Elle est simplement jeune fille, ou elle va devenir maman. Et il nous est dit que eh bien, elle sera surprise, mais quoi qu'il en soit, ce qui a été annoncé s'accomplira. Un peu plus tard, donc, il sera dit, dans 9,5, ce qu'on a entendu tout à l'heure, un enfant nous est né, un fils nous est donné, on l'appellera admirable. Vous savez qu'admirable, on a un point d'exclamation, nous, vous savez, quand on trouve extraordinaire quelque chose, on met un point d'exclamation. Vous savez qu'au début, le point d'exclamation s'appelait le point d'admiration ? Admirable. Ça veut dire qu'on peut mettre des points d'exclamation partout à la naissance de Jésus, des étoiles de partout. Admirable, extraordinaire. Dieu est venu sur la terre, c'est extraordinaire. Conseiller, il sera celui qui pourra nous conseiller. Sa parole est là pour nous conseiller. Parce qu'il est notre conseil et notre conseiller. Dieu puissant, il est capable et il a créé ce que vous êtes. Mais la terre sur laquelle nous sommes, ce que nous voyons quand nous ouvrons les yeux en regardant vers le ciel, et même quand il fait nuit noire, on voit les étoiles, et il y a les observateurs des étoiles avec des télescopes. Et ils veulent aller encore plus loin dans ce qu'ils ne voient pas, parce qu'il y a encore quelque chose. Eh oui, et c'est ce Dieu puissant qui est venu pour nous sauver. Ce n'est pas extraordinaire ? Rien n'est impossible à ce Dieu puissant de venir nous conseiller ou de venir... faire en sorte que nos vies changent. Noël, pas l'enfer, ma vie peut changer. La vôtre peut changer. Chaque jour, alors, il veut renouveler ses grâces et ses bontés. On l'appellera Père éternel. Un fils qui sera père. Appelé Père éternel sans jamais avoir eu d'enfant lui-même. Moi, j'ai été fils de mon père et père de mes enfants. Qu'on m'appelle père, c'est logique, par mes enfants. Que mon père me dise « t'es mon fils », c'est logique. Mais ça paraît illogique pour Jésus. mais il est Père éternel parce qu'il existe de toute éternité. Il s'appellera fils parce qu'il naît de cette Vierge Marie. Il est fils de Marie, fils de Dieu parce qu'il fallait qu'il naisse en tant qu'homme. Mais il est véritablement Dieu. Alléluia. Il est le véritable, 1 Jean 5:20. C'est lui le Dieu véritable, c'est écrit comme cela. C'est lui qui est le Dieu véritable. Waouh! Sans contredit, le mystère de la piété est grand. Dieu a été manifesté en chair, Père éternel. Quand on parle de Jésus, on parle du Créateur, parce qu'il était là à la création. Quand vous lisez la généalogie qui se trouve dans l'évangile de Luc, vous verrez qu'il est parlé au début de Jésus, à la fin de Jésus, après Adam. Ça veut dire que le Fils de Dieu était avant Adam et il est à nouveau là-bas, tout en haut, fils de Joseph. C'est extraordinaire, non? Et là, il n'y a pas dans cette généalogie la maman de Jésus. Et il est bon de lire l'Écriture pour avoir tous les conseils de Dieu. J'étais avec quelqu'un il n'y a pas longtemps qui me posait la question, mais vous dites que Dieu existe, mais pourquoi le mal existe? Il me dit, moi j'ai mon beau-frère, il s'est décroché, il a fait de l'escalade, 62 ans, avec sa femme. Je dis, il n'était pas accroché, il est tombé de la falaise. C'est pas très vieux, hein. Il a décroché, il a dévissé, il a décroché. Pour des spécialistes, il a décroché, ça arrive. Il s'était accroché, je crois, sur une pierre qui était suffisamment grosse, mais je ne sais pas ce qui s'est passé, la pierre, elle l'a emporté, lui. Sa femme avait pu s'assurer, mais pas lui. Pas suffisamment. Et sa femme a vu tomber son mari. Il dit, vous vous rendez compte, et vous me dites que Dieu existe. Je dis, bien sûr, Dieu existe. Il veut nous sauver tous. Il veut vous sauver, vous aussi. Le seul problème, c'est que le diable existe. Vous savez, dans le mot mal, le diable est caché. Il est dedans, le mal. In le mal. Ça donne malin. Non? Ah oui? Ça donne mal, in. Malin. Avant, nous avons été créés pour être honnêtes. Mais le mal est venu à cause du péché. Et on est devenu mal, honnête. On était créés pour être adroit. Le mal est venu. Hop, on est devenu maladroit. Oh, t'as encore cassé quelque chose. Mais toi, t'as qu'une main gauche, hein? Vous l'entendez, ça? Des fois. Les gens étaient créés par Dieu, nous sommes créés par Dieu pour être heureux. Mais le mal est venu. Ça a donné des malheureux. Et vous pouvez en mettre beaucoup des comme cela. Au fond, Dieu avait créé tout parfait. Et cet homme m'a dit, oui, j'ai pas pris cette notion. Je dis, vous le savez comme moi. Quand quelque chose de malheureux arrive, vous voyez encore malheureux, hein? Quelque chose de malheureux arrive, qu'est-ce qu'on fait? On lève le poing contre Dieu. Alors je lui ai dit, est-ce que vous avez déjà levé le poing contre le diable? Il me dit, non, jamais. Et je dis, vous avez déjà vu quelqu'un le faire? Non. Je dis, parce qu'au fond, le diable se cache bien, mais il existe bien, la Bible en parle. Et vous ne connaissez pas l'Écriture. Faute de connaissance, le peuple périt. Nous avons besoin de lire l'Écriture. Nous avons besoin de parler de l'Écriture. Nous avons besoin de parler de Jésus. Les gens ont soif, ils ne le savent pas. Mais on doit leur donner soif. Récemment, quelqu'un m'a donné de la terre. J'étais heureux. Au lieu d'acheter de la terre, je l'ai eu gratuitement. Mais au final, j'ai dit, je vais leur faire un cadeau. Ils ne connaissent pas Dieu, mais je vais leur faire un cadeau. Je vais leur acheter une belle bouteille de champagne. C'est les fêtes. Des bons chocolats, c'est les fêtes. Et je suis allé avec mes chocolats et mon champagne. Et puis, je leur ai dit, voilà, je vous ai amené ça, vous savez qui je suis, donc, mais je vous l'ai amené, c'est vraiment pour les fêtes. Oh, fallait pas, mais je dis, si, avec joie. Mais par contre, j'ai pas mis de Bible, parce que je voulais pas vous la porter, vous forcer à vous la mettre dans le petit paquet. Je voulais d'abord vous demander si vous la voulez. Parce qu'il est parlé du seul, de l'unique sauveur. Vous savez qu'on est des témoins du Seigneur, c'est Noël. Et moi non plus, je ne veux pas qu'ils aillent en enfer. Non, elle. Pour nous, pour eux, pour tous. Je me dis, vous savez, nous on est catholiques non pratiquants. Ah, je dis, d'accord, vous avez juste l'étiquette sur le front. Il me dit, oui, ma femme aussi, vous savez. Je dis, mais vous êtes marié avec votre femme parce que votre belle-mère ne vous aurait jamais donné sa fille. Il me dit, ouais, c'est un peu ça. Et puis il me dit, les enfants m'ont reproché de les avoir baptisés catholiques parce qu'en fait, ils étaient bébés, ils n'ont pas eu le choix. Moi, je dis, ils ont bien fait de vous le reprocher. Parce que l'Évangile ne dit pas ça, mais vous ne le savez pas parce que vous ne lisez pas. C'est pour ça que je vous propose de le lire en vous l'amenant. Si vous le voulez, je vous l'amène. Et puis on a discuté, et puis j'ai dit, vous savez, moi l'avantage que j'ai, c'est que quand j'ai lu ce livre, Christ est venu dans ma vie. Et le timbre que j'avais sur le front, je l'ai ôté. Je ne suis pas resté timbré. Alléluia! C'est pour voir si vous étiez bien réveillé. Timbré par la religion, bien sûr, hein? Vous avez compris, par le timbre. Cet homme, ça l'a fait rire de la même manière. Mais vous savez, on a des choses tellement simples à leur dire, mais qui sont percutantes. Et puis après coup, après discussion, sa femme est venue et ils m'ont dit tous les deux, on veut bien lire la Bible. Alors du coup, je dois y retourner. Je l'ai déjà commandé à votre endroit là, pour pouvoir à la bibliothèque, pour pouvoir la voir et le rapporter. Alléluia! Dieu se révèle au travers de la prédication, au travers de l'écriture, au travers d'une révélation particulière. Et le jour de Noël, c'était particulier, le jour de la naissance de Jésus. Vous savez, dans le temps, on chantait « Il est né le divin enfant ». T'es tout petit, on était bercé par ces vieux chants, là. Il y en a un autre qui était beau, qu'on connaît tous, hein. « Minuit chrétien », c'est l'heure solennelle. L'enfant roi qui arrive. C'est extraordinaire, quand même, ces chants, non ? Ah ouais. Alors, quelque part, au fond, il y a bien une essence, il y a bien quelque chose. Même les gens qui ne veulent pas croire, mais on va passer en 2020 après Jésus-Christ. Il faut leur dire. Et au fond, tous ces textes nous disent dans l'Ancien Testament qu'il était admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, Prince de la paix. Ésaïe dit même dans le chapitre 35, verset 4, qu'il viendrait lui-même. Dieu dit de lui qu'il viendrait lui-même pour nous sauver. Alléluia ! Il viendrait lui-même pour nous sauver. Et qu'à ce moment-là, ça serait visible au travers des signes, des miracles, des prodiges. Et la bonne nouvelle sera annoncée partout. Souvenez-vous, après le baptême de Jésus, d'abord il va se faire baptiser au moment où il prie. On voit l'Esprit descendre sous une forme corporelle, comme une colombe, et une voix qui dit « Celui-ci est mon fils, bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. » Sur la montagne de la Transfiguration, il y a une phrase supplémentaire, « Écoutez-le. » Nous savons tout cela. C'était annoncé « Je viendrai moi-même. » Et quand Jean le Baptiste était en prison, il va faire poser la question à ses disciples, « Es-tu celui qui doit venir ou devons-nous en attendre un autre ?» Et vous savez ce qu'il répondra à Jésus ?« Allez dire les aveugles voient, les boiteux marchent, et la bonne nouvelle est annoncée aux pauvres. » C'était un prophète. Tous les prophètes annonçaient la venue de Jésus. Annonçaient l'Ancien Testament. Mais Jésus est arrivé. Allez dire alors maintenant à celui qui est en prison, Jean le Baptiste, que c'est bien moi. Et lui, ça lui suffit comme réponse, parce que c'est la réponse de l'Écriture. L'Écriture est attestée. C'est merveilleux, n'est-ce pas? Parce que d'un bout à l'autre, la parole de Dieu est entièrement la parole de Dieu. Elle est inspirée d'un bout à l'autre. Il n'y a pas dans la Bible des paroles de Dieu. Elle est toute la parole de Dieu. Alléluia, hein ? Ne mettons jamais en doute tout cela. Jamais. Il est même parlé de sa mort, alors il est parlé de sa naissance, de sa venue. Mais il est parlé de sa mort. Dans Zacharie, il est parlé, 12, verset 10, « Ils me reconnaîtront, moi, celui qu'ils ont percé. » Et c'est ce que nous verrons à la croix. Noël a un sens. Il ne fallait pas simplement qu'un bébé naisse et que tout le monde fasse une crèche pour adorer un bébé, mais que ce bébé grandisse et vienne pour un but suprême, que nous soyons tous pardonnés, car sur la croix, il y a une affiche qui est posée. Une condamnation qui était là, la condamnation de la loi. Mais cet acte est aboli par la croix. Il y a un nouveau papier signé du sang de Jésus, entaché de sang. C'est ma grâce offerte à chacun de ceux qui croient. Vous imaginez ? Voilà pourquoi il était venu. Il fallait qu'il naisse, qu'il grandisse, qu'il vive jusqu'à la croix. 3 ans de ministère puissant. Sa naissance était annoncée à Bethléem. Je ne vous trouvais pas ça extraordinaire ? Bethléem, la maison du pain. Il fallait que ce soit à Bethléem. De toi, Bethléem Ephrata, naîtra celui qui sera le sauveur, le germe. C'est intéressant, moi, je trouve. C'est la parole de Dieu, il n'y a pas de hasard. Jésus dira lui-même, « Je suis le pain venu du ciel. » Alléluia, je vous cite des textes, hein. Ésaïe 9, verset 1. On peut le lire peut-être ? Puisque moi je vous cite des textes, mais je ne vous fais pas lire. Comme il n'y a que moi qui travaille. Ésaïe 9. Le peuple qui marchait dans les ténèbres voit une grande lumière. Sur ceux qui habitaient le pays de l'ombre de la mort, une lumière resplendit. Alléluia! Une lumière resplendit. Moi, je trouve qu'à la naissance de Jésus, il y a beaucoup de lumière. Il y a des hommes qui sont dirigés par une lumière pour aller jusque là où se trouve Jésus. Une lumière qui se porte, eh bien, à l'endroit précis, à Bethléem, où se trouve Jésus. Dans les champs, un ange arrive tout rayonnant de lumière et s'adresse à des bergers. C'est tellement glorieux, admirable, qu'ils ont peur, ils sont dans la frayeur. Mais qu'est-ce qui se passe ? Ces bergers-là sont là et il y a de la lumière de partout, dans les champs. Ils sont là, c'est glorieux, il fait nuit noire et pourtant ils sont dans la lumière. Mais une lumière qui n'est pas la lumière du jour. Et ils entendent cet ange dire, « Eh bien, il vous est né, là-bas à Bethléem, celui qui est le sauveur du peuple, Jésus, que vous trouverez emmailloté dans la mangeoire. » C'est pas extraordinaire tout ça ? Ils étaient au courant de rien. Et d'un seul coup, il se joint à cet ange, une myriade d'anges qui vient et qui se met à chanter. Il y a de la lumière et des chants, c'est extraordinaire. Il y a de la joie, parce que au fond, le Sauveur, qui ne veut pas qu'on aille en enfer, est venu sur la terre pour nous sauver tous. Même les anges sont heureux de nous l'annoncer. Ils sont heureux de chanter à la louange du Seigneur. Et nous, on se plaindrait. Oh, quelquefois, il y a besoin de se plaindre, hein, parce qu'on est français. Ou parce qu'on est italien. Ou parce qu'on est congolais. En fait, c'est le propre de l'homme, je crois. Et de la femme. Excusez-moi, les frères. Mais c'est notre nature de jamais être content. Eh oui. Mais il y a de la joie là-dedans, dans cet endroit merveilleux. Il y a une joie extraordinaire. Si on avait pu filmer, si on avait pu prendre la musique des chants, ça aurait été extraordinaire. Il y avait des chants dans les chants. Ça devait être extraordinaire. Et alors après, ils sont allés là-bas, dans la ville. Et dans la ville, ils ont trouvé à l'endroit indiqué Jésus. Et même les mages qui sont allés vers Hérode, eh bien, pour savoir où était né le roi des Juifs. Ils ont dit, on a vu la grande lumière, hein, on va aller voir où est le roi des Juifs. Et Hérode, il était en colère à l'intérieur, hein, parce que le roi, c'était lui. Alors quand vous repasserez, que vous aurez vu le roi, vous venez me dire où il se trouve, hein, pour que j'aille lui couper la tête. Ouais. C'est pour ça qu'après la naissance, Jésus sera emmené à Nazareth, en retour à Nazareth, mais en Égypte. Comment c'est possible? Parce qu'un ange est venu voir Joseph. Un ange est venu voir Joseph au départ pour lui expliquer qu'il fallait qu'il garde la jeune fille vierge qui devait être son épouse, Marie. Il est même précisé, il ne la connut point jusqu'à ce qu'elle enfante Jésus, le Sauveur. C'est-à-dire, il n'y a pas eu de relation conjugale jusqu'à la naissance de Jésus. Lire la Bible nous permet, nous renseigne qu'ensuite, il y a forcément eu des relations conjugales puisqu'ils ont eu des filles et des garçons. Au moins 2 filles et 4 garçons, en plus de Jésus. Donc, au fond, c'est quand même intéressant de lire l'Évangile. Donc, il a eu une première révélation, une deuxième révélation. Il faut que tu partes parce qu'on en veut aux petits et à vous. Donc, partez vite en Égypte. Ils vont se réfugier en Égypte. Une troisième révélation, et ce n'est pas Marie qui l'a, c'est toujours Joseph. Parce que, je répète, il est de la descendance de David. Et il va avoir cette révélation pour dire « tu peux retourner ». Et il va aller à Nazareth. Et Nazareth, ça veut dire quelque chose d'intéressant. Ça veut dire verdoyant. Ça veut dire germe, semence. C'est de là qu'est venue la semence qui a grandi. Le germe de vie. Celui qui s'appelle le cep. Le cep sur lequel nous sommes tous appelés à rester accrochés. Parce que la vie vient du cep. D'ailleurs, l'Ancien Testament disait que le Seigneur chérissait un cep, chérissait sa vigne. Et ce cep, c'était déjà l'image de celui qui allait venir. Alléluia. Vous voyez que Noël nous entraîne à tellement de choses en même temps. La lumière qui resplendit. Et Jésus qui dit « Je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera plus dans les... » ténèbres, mais il aura la lumière de la vie à tous ceux qui l'ont reçu, la lumière de Jésus. Celui qui est la parole faite chair, à tous ceux qui l'ont reçu, il leur donne le droit de devenir enfants de Dieu. Ça peut être Noël pour toi aujourd'hui si tu acceptes Jésus, si tu demandes pardon pour tes péchés, si tu l'accueilles dans ton cœur. C'est le plus beau des cadeaux qui nous a été fait. C'est le cadeau du ciel. Il n'y a aucun hasard. La lumière resplendit. Ouais. Dans le ciel, la lumière est toujours là pour nous rappeler ces choses. On est toujours émerveillé par de la lumière, n'est-ce pas? Même à la maison, vous verrez, s'il y a des moustiques, vous allumez la lumière. Ils vont directement se faire griller dans la lumière. Et nous, on reste dans les ténèbres, on n'accueille pas Jésus. On n'est pas attiré par sa lumière, lui qui veut nous éclairer. La Bible dit et clairement que le diable aveugle l'intelligence des hommes afin qu'ils ne voient pas briller l'évangile de Jésus-Christ. On a vraiment besoin de s'approcher de celui qui est la lumière. Jésus a dit « Venez à moi, vous tous, qui êtes fatigués, chargés. » Vous savez, quand il avait 12 ans, Jésus, quand il grandit, lui qui est la lumière qui est venu, lui qu'on a cherché à éliminer dès la naissance. Parce que si le diable pouvait faire en sorte que Jésus meure, il n'y aurait pas eu de salut. Mais Jésus a dit qu'il était venu pour donner sa vie en rançon. Il fallait donc qu'il grandisse, qu'il soit en âge mûr. Pourquoi en âge mûr? Parce que le sacrifice de l'agneau chez les sacrificateurs et dans l'Ancien Testament, c'était des agneaux mâles, mais adultes. Prêts à procréer. C'est-à-dire, il n'y avait pas encore eu procréation, mais prêt à donner la vie. Et il fallait que Jésus atteigne l'âge mature, 30 ans. C'était la majorité de l'époque, ce n'était pas 18 ans. Eh oui. Nous, on a connu la majorité à 21. Mais en plus, il y avait l'armée, donc ça nous formait. Ou ça nous déformait, ça dépend. Hein. Mais aujourd'hui, c'est 18. Je ne sais pas si tout va bien. À 18 ans. Déjà à 21, ce n'était pas facile. Hein. Mais en tout cas, l'enfance de Jésus, elle, était différente. Dans Luc chapitre 2, il nous est dit qu'il était dans le temple. Il parlait avec les sacrificateurs. Les parents l'y avaient oublié. Il ne l'avait pas oublié dans le temple, il l'avait oublié dans la ville. Ils avaient oublié de compter les enfants. Ils en avaient plusieurs, donc ils n'ont pas tout compté. Hein. Ils se sont dit, ben, il suit dans le lot, quoi. Et puis, ils ont fait plusieurs temps. Au bout d'un jour de marche, ils se rendent compte, tiens, on va compter les enfants. Tac, tac, tac. Ah, tiens, il nous en manque un. Ils l'ont cherché partout. Et après, il nous est dit, retourne à Jérusalem. Donc, ils avaient déjà fait une journée de marche. Une journée pour retourner. Plus, ils l'ont cherché 3 jours. Enfin, c'est quand même intéressant. Ils ne l'ont pas cherché au bon endroit, puisqu'ils l'ont cherché partout. Et c'est seulement à la fin qu'ils se disent, ah ben, pourquoi pas au temple ? Alors, je me dis quand même, la maman de Jésus n'était pas capable de le savoir. Elle aurait dû le savoir. Puisqu'il y a plein de gens qui lui demandent plein de choses. Pas encore aujourd'hui, hein, je pense. Mais même de son vivant, elle ne savait pas. Et puis elle va dire, mais pourquoi tu nous as fait ça, Jésus ? Ton père et moi, on te cherche, on était dans la frayeur. Tu nous as fait peur, tu ne te rends pas compte ? Et lui, vous savez ce qu'il a répondu ? À 12 ans. Mais ne savez-vous pas qu'il faut que je m'occupe des affaires de mon père ? Il est venu de la part du ciel, parce qu'il est la parole faite chair, et il a été décidé dans le ciel par lui-même, voici, je viens. C'est moi qui ai décidé de mourir sur la croix. Je m'occupe de ce qui a été déjà pensé là-bas dans le ciel. C'est pour ça que Jésus plus tard dira plusieurs fois, mais qui es-tu, femme, etc. C'est pour ça qu'il confie cette femme, sa maman, eh bien, à quelqu'un en bas de la croix, tu t'occuperas de ma maman, parce qu'il n'y a pas de social à l'époque. Joseph était déjà sans doute mort. Donc il fallait bien qu'il y ait un homme qui prenne le relais, qui s'occupe d'elle et qui dirige vers les autres enfants, etc., etc. C'était un petit peu la forme de passation pour le reste. L'enfance de Jésus. Et ils vont repartir donc vers Nazareth. Le ministère de Jésus fut puissant. Il nous est dit que son ministère était tellement grand. Mais avant d'avoir ce grand ministère, il a été tenté par le diable. Jésus, celui qui est venu pour Noël, non pas l'enfer. Pourquoi ? Parce que Adam et Ève nous ont fait rentrer dans un programme qui était mauvais. On a été vendus au péché, c'est ce que dit la Bible. Alors il faut racheter ceux qui ont été vendus. C'est toujours une négociation de prix, hein ? Mais là, ce n'est plus une histoire d'argent. C'est le Tout-Puissant qui vient mourir pour nous sur la croix. Mais comme il est homme, le diable essaye de le tenter, parce qu'il se dit, si j'arrive à le tenter, et s'il est aussi, eh bien, comme Adam et Ève, alors l'humanité me suivra pour l'enfer, pour l'éternité. C'est ça le plan du diable. Mais Jésus a triomphé. Jésus a triomphé de toutes ses tentations. Je ne vais pas rentrer, ça fera une prédication aussi. Hein, mais en tout cas, il a gagné. Et il nous a dit qu'ensuite, alors sorti de cette tentation, il dira, mais tu adoreras ton Dieu seul. Il nous a dit qu'il fut revêtu de l'esprit. Il va aller à la synagogue, il va dérouler le livre. Et en déroulant le livre, c'est le livre d'Ésaïe, vous le savez ? Au chapitre 4 de Luc, on peut peut-être le lire ? verset 18. L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance, aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés. Verset 21. Alors il commença à leur dire aujourd'hui cette parole de l'Écriture que vous venez d'entendre est accomplie. Il est devenu adulte, il n'est pas resté bébé. Alléluia. Et maintenant, eh bien, il cite l'Ancien Testament parce qu'il n'y avait pas le Nouveau Testament. Ne dites jamais ça, c'est dans l'Ancien, alors ce n'est pas grave. Jésus se fie à l'Ancien Testament pour montrer qu'il éclaire l'Ancien Testament puisqu'il est la lumière, tout simplement. Alors Jésus va montrer qu'il va pardonner. La femme adultère va être pardonnée, alléluia! Elle était coupable, elle méritait la mort, dit le texte. Et les hommes étaient venus pour la lapider dans un endroit précis pour la lapider, là où il y avait sans doute beaucoup de pierres. Hein. Une ancienne carrière, sans doute. Il y avait peut-être déjà du sang sur certaines pierres qu'ils étaient prêts à prendre. Et là, Jésus va leur poser la question que celui qui n'a jamais péché, lui lance en premier la pierre. Et là, c'est des juifs, c'est des gens qui connaissent l'Écriture, qui sont repris par ce que dit Jésus. Parce que quand Jésus parle, c'est la parole de Dieu. La parole de Dieu reprend. La parole de Dieu nous reprend, pas pour nous faire du mal, mais pour qu'on rentre en nous-mêmes. Alors ils repassent un petit peu les 10 commandements dans leur esprit, dans leur cœur. Est-ce que j'ai mis Dieu en premier dans ma vie? Est-ce que j'honore mon père et ma mère? Est-ce que je n'adore pas des idoles? Est-ce que je n'ai pas des statues chez moi qui sont cachées, que j'adore? Est-ce que j'ai des images pieuses? Etc, etc. Et au fur et à mesure, les uns et les autres s'en vont. Et il ne reste plus personne, si ce n'est que Jésus et cette femme. Et Jésus dira à cette femme, « Moi, je ne te condamne pas non plus, mais va et ne pêche plus. » Jésus a le pouvoir du pardon. Quel que soit le péché commis, il a le pouvoir du pardon. Il n'y en a pas deux, il n'y en a pas trois. Et ce ne sont pas des pèlerinages qui vont nous pardonner. Ce n'est pas un gros chèque dans une église qui nous pardonnera. Ce n'est pas un héritage que l'on lègue à une église qui va faire le pardon de nos péchés. C'est parce qu'on va rentrer dans notre chambre et on va s'expliquer avec Dieu en lui demandant pardon parce qu'on est des pécheurs misérables. Et là, le Seigneur nous pardonnera. Parce que ça s'appelle le trône de la grâce. C'est ça, Noël. Il veut cela. Il ne peut jamais dire non quand on lui demande pardon. Il ne peut que dire oui. Concernant toutes les promesses de Dieu, en Jésus, il n'y a que le oui. Amen. On ne peut que se réjouir, n'est-ce pas? Jésus libère. Jésus pardonne, Jésus libère. Il y avait un jeune enfant qui se jetait tantôt dans l'eau, tantôt dans le feu, et il nous a dit que son père était malheureux. Il va dire, depuis quand ça arrive? Depuis qu'il est enfant. Depuis qu'il est petit, on ne sait pas pourquoi, on ne va pas chercher pourquoi. Mais Jésus est là. Et parce que Jésus est là, tout change. Est-ce que vous croyez que Jésus est là? Alors est-ce que vous croyez que tout peut changer aujourd'hui? Pour vous? Pour votre nature? Pour ce qui se passe dans votre esprit, dans votre cœur, dans votre être? Peut-être que vous êtes malade, mais Jésus est capable d'intervenir. Il libère, et ces personnes qui étaient possédées vont être libérées. Ce jeune garçon sera totalement libéré et guéri. Il n'aura plus ces excès de crise où il se jette tantôt dans l'eau, tantôt dans le feu. C'est terrible, n'est-ce pas? Mais Jésus vient libérer. Il est venu détruire les œuvres du diable. Ceux qui sont sous l'empire du diable. Jésus guérit. Il impose les mains aux malades. Et les malades sont guéris. Jésus fait des miracles extraordinaires. Pourquoi? Parce qu'il est le Père éternel, il est le Dieu puissant. Vous imaginez, quand il y a la première fois les pains et les poissons qui sont multipliés, il va le refaire une seconde fois, et il va dire, mais ils ne comprennent pas. Ils viennent que pour manger. Mais ils n'ont pas compris que je suis créateur, que je suis capable de multiplier le pain, de multiplier les poissons. Mais ils n'ont pas compris. Alors il a arrêté. J'oserais dire, il a arrêté le social.
Waouh.
Il l'orientait pour le message d'abord. Hein. Ça ne veut pas dire que le social, c'est pas bon. Mais lui, il l'a arrêté. Parce qu'ils venaient en foule chercher leur colis. Hein. Mais quand on vient chercher le colis, on ne voit plus rien. Hein. On ne fait plus attention au message pour lequel Jésus est venu, Noël. Le message du salut, de l'éternité, du pardon, de la vie merveilleuse qui nous attend là-bas dans le ciel, les uns comme les autres. Il ressuscitait les morts. Il a ressuscité une jeune fille, un jeune homme, Lazare, qui était déjà abîmé dans son corps et dans le tombeau. Il sentait déjà. Ce qui revient à dire qu'il a la toute puissance de la résurrection. Quel que soit l'état du corps et quel que soit l'état de ce que nous sommes après la mort. Lazare sort et le mort sorti, ça veut dire qu'il a entendu. Un signal donné au son de la trompette des archanges, il nous est dit, eh bien que les morts en Christ ressusciteront premièrement. Oh qu'il est important d'appartenir au Christ. C'est ça Noël, c'est appartenir au Christ pour aller au ciel. Et puis Jésus est ressuscité. Il a vaincu la mort. La mort était un ennemi. Il est venu vaincre celui qui avait la puissance de la mort. Hébreux 2,14. C'est-à-dire le diable. C'est écrit comme cela. Noël. Vous pensez bien qu'alors le diable n'aime pas les chrétiens, les vrais, les authentiques. Ceux qui ont ôté l'étiquette, mais qui sont chrétiens de cœur. Récemment, il y a encore quelqu'un qui me disait « Oh, mais moi, vous savez, je suis chrétien, regardez. » Alors, il sort son portefeuille, et puis il m'ouvre, il avait effectivement une image pieuse. « Ah, ben, je lui dis, votre Dieu, il est quand même mal placé, hein. J'ai dit, il est quand même mal placé. » Alors, il me dit « Oh, comment ?» Ben, je dis « Moi, le mien, il est dans mon cœur. » Choisissez l'endroit que vous voulez, mais le mien, il est dans mon cœur, hein. Venez à moi, dit Jésus. Accueillez Jésus dans votre vie, dans votre cœur. Ça ne sert à rien de l'avoir là, sur la fesse, en image pieuse, ou dans votre sac à main. D'ailleurs, on peut vous le voler, le sac à main. L'image pieuse, elle n'y fera rien. Hein. Non, j'en suis sûr. Alors oui, Jésus est venu. Il a vaincu la mort. Tout est accompli. Sa résurrection, le grand triomphe. Tous les hommes qui croiront, eh bien, auront ainsi cette espérance glorieuse d'aller un jour au ciel. Et ils ne seront pas dans la crainte ni dans la peur. Je suis allé il n'y a pas très longtemps voir une sœur qui est partie pour l'éternité maintenant. Et son mari me disait, il y a quelques semaines, il m'a dit, vous savez, j'étais avec elle jusqu'au dernier souffle. Elle m'a dit, tu sais, je m'en vais vers le ciel. Je suis fatigué. C'est l'heure. Et il a dit, dans l'heure qui a suivi, je lui tenais la main. Eh bien, elle est partie. Waouh. Et je lui dis, vous frère, ça va? Ah, il me dit, écoutez, rien que de la voir partir comme ça, moi, ça a fait ma consolation et j'ai l'espérance, je la reverrai bientôt. Vous savez, ce qui est extraordinaire, quand on s'en va, on attend nos familles, nos bien-aimés, nos amis sur le quai de la gare du paradis. C'est extraordinaire, ça. Vous savez pourquoi? Parce qu'on a dit non à l'enfer en acceptant Jésus. Nous aussi, on a dit Noël. Noël! Moi, j'ai Jésus. Jésus a payé pour que je vive le vrai Noël, le paradis, le ciel. Amen. On va prier le Seigneur, que le Seigneur nous bénisse, vous bénisse, vous fasse du bien, répande sa grâce. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Et que celui qui a besoin, eh bien, se lève à sa place et puis on va prier le Seigneur, quel que soit le besoin, quelle que soit la difficulté. Osez vous lever, osez demander à Dieu de vous renouveler dans la foi, de vous renouveler dans l'amour de l'Écriture, pour la lire. Demandez au Seigneur de vous aider, de vous guérir, de vous aider dans tout ce qui est même matériel, parce que Dieu aide même sur le plan matériel, sur le plan physique, sur tous les plans. Le Seigneur est là, prêt à vous aider. Il est le Dieu puissant. Alléluia. Il a tout pouvoir. Seigneur, je veux